Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La crise de la culture est la traduction française de Between Past and Future, un recueil d'essais dans lequel Hannah Arendt examine les ruptures intellectuelles et politiques de la modernité. Publié à l'origine dans les années 1950 et 1960, ces textes ne forment pas un traité systématique, mais une série d'enquêtes liées par une même question: comment juger et agir lorsque les repères transmis par la tradition ont perdu leur autorité. Arendt étudie notamment l'histoire, l'autorité, la liberté, l'éducation, la culture, la vérité factuelle et la politique. Son propos n'est ni de restaurer un passé idéalisé ni de célébrer sans réserve la nouveauté moderne. Il consiste à décrire la situation fragile dans laquelle les individus doivent penser sans garantie héritée. Le livre éclaire ainsi les conditions culturelles du monde commun, un espace de réalité, d'œuvre, de parole et de jugement partageable. Il demeure une référence majeure de philosophie politique pour comprendre les tensions entre société de masse, responsabilité éducative et liberté publique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, penser dans la brèche laissée par la rupture de la tradition. Le point de départ d'Arendt est le constat d'une rupture. La tradition occidentale ne fournit plus spontanément les catégories par lesquelles comprendre le présent. Cette perte ne signifie pas que le passé cesse d'exister ni que tout héritage doive être rejeté. Elle signifie plutôt que le fil interprétatif qui reliait l'expérience présente aux autorités du passé est rompu. Arendt appelle brèche l'intervalle inconfortable entre un passé qui ne commande plus et un avenir qui ne peut être déduit d'aucune doctrine. Dans cet intervalle, penser devient une activité nécessaire plutôt qu'un exercice réservé aux spécialistes. Il ne s'agit pas de produire des recettes historiques ni de se réfugier dans la nostalgie. Penser exige de confronter les événements à leur signification propre, sans les faire entrer de force dans des schémas hérités. Cette perspective explique la forme même du recueil. Chaque essai reprend un concept devenu incertain et en interroge l'histoire, les usages et les déformations modernes. La crise est donc aussi une possibilité critique. Elle oblige à distinguer ce qui mérite d'être conservé de ce qui ne peut plus être maintenu et à exercer un jugement qui ne repose plus sur une autorité incontestée. Deuxièmement, autorité et liberté ne se confondent ni avec la contrainte ni avec la souveraineté. Arendt analyse l'autorité en la séparant soigneusement de la violence, de la persuasion et de la contrainte. Une relation autoritaire suppose une reconnaissance de légitimité qui rend inutile le recours constant à la force. Sa crise moderne ne se réduit donc pas à une saine contestation des pouvoirs abusifs, elle révèle aussi la difficulté à maintenir des institutions et des responsabilités communes, lorsque toute asymétrie est assimilée à une domination arbitraire. L'étude de la tradition romaine permet à Arendt de montrer que l'autorité était liée à la fondation, à la continuité du monde politique et au respect d'un commencement commun. Cette analyse ne recommande pas de restaurer les formes anciennes d'autorité rendues impossibles par les transformations modernes. Elle aide plutôt à comprendre les effets d'une disparition sans remplacement. La liberté reçoit un traitement parallèle. Arendt refuse de la réduire à la souveraineté individuelle, c'est-à-dire au rêve de maîtriser entièrement soi-même et le monde. La liberté se manifeste surtout dans l'action et la parole parmi des égaux, lorsque des personnes inaugurent ensemble quelque chose de nouveau. Cette conception déplace la discussion à une politique libre, ne garantit pas l'absence de toute dépendance, mais crée des espaces où l'initiative, la pluralité et la délibération peuvent apparaître publiquement. Troisièmement, la crise de l'éducation met en jeu la responsabilité envers un monde commun. Dans son essai sur l'éducation, Arendt aborde un domaine concret où la crise de l'autorité prend une forme particulièrement sensible. L'enfant est nouveau dans un monde déjà là, tandis que le monde lui-même doit être préservé et renouvelé par l'arrivée des nouveaux venus. Les adultes ont donc une double responsabilité, protéger l'enfant durant sa croissance et lui présenter un monde qu'il pourra un jour transformer. Arendt critique les pédagogies qui effacent trop vite la différence entre enfants et adultes, ou qui font de l'école un laboratoire de comportements sociaux plutôt qu'un lieu de transmission. Sa critique ne vise pas l'autonomie intellectuelle des élèves. Elle conteste l'idée que l'autonomie puisse naître d'un abandon prématuré de la responsabilité adulte. L'enseignant n'est pas propriétaire du monde qu'il transmet, et il ne doit pas imposer ses opinions politiques aux enfants. Mais il doit répondre de ce monde devant eux, en leur donnant accès aux savoirs, aux œuvres et aux repères qui permettent de s'y orienter. L'enjeu éducatif dépasse alors la technique scolaire. Une société qui ne veut plus transmettre risque de priver les nouvelles générations des ressources nécessaires pour juger le passé et commencer autre chose. Préserver le monde n'équivaut pas à le figer et créer les conditions de son renouvellement réfléchi. Quatrièmement, la culture protège les œuvres contre leur réduction au divertissement de masse. Arendt distingue la culture de la simple diffusion de biens culturels. Pour elle, les œuvres d'art appartiennent au monde commun, Parce qu'elles possèdent une relative durabilité, elles survivent à leur usage immédiat et offrent aux générations successives des objets autour desquels se formait un jugement. Le problème N n'est donc pas que davantage de personnes accèdent aux livres, aux images ou aux spectacles. Il apparaît lorsque les critères de consommation transforment les œuvres en produits rapidement absorbés, remplacés et adaptés à la demande. Dans cette logique, la culture devient un matériau de divertissement et perd une part de sa capacité à résister au temps. Arendt ne défend pas une culture réservée à une élite sociale. Elle insiste sur une distinction de fonctions la société de masse tend à consommer, alors que la culture suppose soin, conservation et jugement. Cette distinction permet d'éviter deux simplifications opposées, l'élitisme qui identifie l'accès populaire à une dégradation, et l'optimisme qui confond démocratisation et préservation des œuvres. Son analyse met également en avant le rôle du goût, entendu non comme préférence privée, mais comme capacité de juger des objets partageables. Cultiver ce jugement rend possible une relation au passé qui n'est ni vénération ni consommation, mais attention au monde durable que les œuvres rendent visible. En dernier lieu, la vérité factuelle constitue une condition fragile de la liberté politique. Les essais consacrés à la vérité et à la politique élargissent la crise culturelle au rapport collectif avec la réalité. Arendt distingue les vérités rationnelles, comme celles des mathématiques ou de la philosophie, des vérités factuelles liées aux événements, aux actes et aux paroles qui ont eu lieu. Les secondes sont particulièrement vulnérables dans l'espace politique car elles dépendent de témoignages, de documents, de récits et d'institutions capables de les conserver. Elles peuvent être contestées, sélectionnées ou déformées par les intérêts collectifs. Arendt ne soutient pas que la politique puisse devenir un domaine exempt de conflits, d'opinions ou de persuasions. Au contraire, elle reconnaît que la pluralité des points de vue est constitutive de la vie publique. Mais les opinions ne peuvent être véritablement discutées que si elles se rapportent à un monde de faits qui ne soit pas entièrement malléable. Lorsque le mensonge organisé détruit cette base, il ne produit pas seulement une erreur ponctuelle, il désoriente les citoyens et affaiblit leur aptitude à juger. Cette réflexion évite aussi de sacraliser toute affirmation présentée comme factuelle. Elle rappelle la nécessité d'enquêter, de vérifier et de préserver les traces du réel. La liberté politique exige ainsi davantage que le droit de parler. Elle requiert un monde commun suffisamment stable pour que les paroles puissent répondre à quelque chose. En conclusion, la crise de la culture s'adresse aux lecteurs de philosophie politique, aux enseignants, aux étudiants en sciences humaines et à toute personne qui cherche des outils rigoureux pour penser les fragilités du débat public et de la transmission culturelle. Il demande une lecture attentive à Arendt, travaille les distinctions conceptuelles, mobilise l'histoire de la pensée occidentale et ne propose pas de programme institutionnel immédiatement applicable. En retour, le recueil fournit une méthode intellectuelle précieuse. Il apprend à ne pas confondre autorité et autoritarisme, liberté et souveraineté privée. Accès à la culture et consommation culturelle, pluralité des opinions et effacement des faits. Ces distinctions permettent d'examiner plus finement des débats actuels sur l'école, les médias, le patrimoine, la désinformation ou la démocratie. Le livre se distingue des diagnostics généraux sur le déclin culturel par son refus des réponses nostalgiques. Arendt ne prétend pas réparer la tradition ni offrir une théorie totale de la modernité. Elle étudie ce que la rupture rend difficile et ce qu'elle rend indispensable, exercer le jugement, assumer la responsabilité du monde et préserver un espace commun où puissent apparaître œuvres, faits et actions. Par rapport à des essais de philosophie politique centrés sur les institutions ou les idéologies, son originalité est de relier directement culture et politique. Les œuvres, l'éducation et la vérité ne sont pas des sujets périphériques, ils constituent les conditions sous lesquelles des citoyens peuvent partager un monde et y commencer quelque chose de nouveau. Cette articulation explique la persistance et la fécondité critique du recueil. Si vous souhaitez soutenir Hannah Arendt, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.